Je vais commencer par par pointer une coïncidence qui a peu été travaillée, qui pour moi est fondatrice. C'est-à-dire que la première fois où Jacques Lacan a parlé de symbolique imaginaire réel, c'était le 8 juillet 1953. Et c'était vraiment la première fois. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais énoncé la Trinité. Et 1953, pour moi, c'est aussi l'année du voyage en Italie de Rossellini. C'est aussi l'année de Monica de Bergman et c'est aussi l'année de Elle chez Buñuel. C'est-à-dire que je suis toujours très troublé par ça. En même temps, Lacan théorise quelque chose et en même temps, les cinéastes sont en train, eux aussi, de travailler la même chose. C'est-à-dire de bouleverser les rapports qui étaient très plan-plan, qui étaient très classiques entre réel, imaginaire et symbolique. Et dans les deux cas, dans le cinéma et chez Lacan, il faudra des années pour que cette première avancée devienne quelque chose, disons, de plus répandu. Dans le cas de Rossellini, ben, il faudra attendre la nouvelle vague pour que ce qu'il énonce, enfin ce qu'il invente dans le voyage se retrouve dans d'autres films. Et pour Lacan, ça sera aussi assez long que sa Trinité devienne un vrai objet de travail des psychanalystes et tout ça. Alors, je vais commencer très très hard sur le réel selon Lacan. Parce qu'en fait, je vais parler de. Est-ce que le réel. Est-ce que la fiction peut accepter, produire, faire émerger du réel? Question essentielle, hein, au cinéma et dans la création. Alors, pour Lacan, là, il y a la grande distinction entre la réalité et le réel. La réalité, c'est la réalité banale. C'est la table, parce que je peux la nommer table. C'est la bouteille d'eau, parce que je peux la nommer bouteille d'eau et que je peux la boire. C'est-à-dire la réalité est quelque chose de déjà totalement assimilé et verbalisable. C'est-à-dire on ne la voit plus, la réalité. Le réel, c'est le contraire. La réalité est du côté du signifiant, pour aller vite. Et le réel, au contraire, c'est un bloc brut. Dont on ne peut pas parler, ou dont on peut difficilement parler, en tout cas qu'on ne peut pas produire. Le réel advient ou pas, mais on ne peut pas le produire dans un film. Et bon, Lacan dit, il n'y a aucun espoir d'atteindre le réel par la représentation. C'est évidemment le sujet du jour, c'est-à-dire est-ce que le cinéma, qui est un art de la représentation, peut atteindre le réel? Ou est-ce que du réel peut sortir d'une représentation cinématographique. Alors le réel, il le définit aussi comme du sens blanc, c'est-à-dire contrairement au sens qui est, c'est un sens sans sens, c'est un sens blanc, et il dit, il surgit tel une météorite dans les blancs du sens. Les blancs du sens, la fiction, normalement, n'en a pas. Normalement, un film de fiction travaille l'imaginaire et il n'y a pas de blanc. Pas toujours. Parce que du coup, je vous montrerai deux ou trois exemples où il y a du blanc. Et ce blanc permet de faire advenir, faire sortir, si vous voulez, un tout petit peu de réel. En tout cas, je démarre sur un principe, hein, c'est que la caméra ne capte pas ontologiquement du réel. C'est pas parce qu'on filme quelque chose qu'il y a du réel sur l'écran. C'est même très très difficile d'avoir du réel ou d'avoir des éclats de réel et on le sait quand on voit les documentaires où les documentaires après tout eux travaillent la réalité, il n'y a pas de l'imaginaire fictionnel et en même temps dans les documentaires il n'y a pas plus de réel que dans les fictions, peut-être même il y en a moins puisque j'expliquerai après pourquoi c'est encore plus difficile de faire surgir du réel dans le cinéma documentaire. Donc le réel ne vient ni de la caméra, ni des, et alors là c'est plus, ni des intentions conscientes du créateur. Quelqu'un qui dit, un cinéaste qui dirait qu'il veut filmer du réel, ça ne veut rien dire, puisque le réel c'est ce qui se dérobe justement à tout volontarisme, disons à toute. Le réel ne peut pas être prépensé. Quand le réel arrive, il arrive justement dans les blancs du sens. Et il n'arrive pas, il ne peut pas arriver comme ça. Alors, je vais travailler un peu cette histoire-là, parce que la fiction, par essence, elle est intentionnelle et elle est régie par les lois de la causalité. À partir de ces deux données, comment pourrait-elle accueillir du réel? Parce que le réel, lui, il n'a rien à faire de la causalité ordinaire du scénario. Et pourtant, le réel peut parfois devenir dans un film, mais c'est très rare et c'est très ponctuel. Le réel, quand il arrive, c'est comme un éclat, c'est un surgissement totalement imprévisible, hasardeux et aléatoire. Et pourtant, les cinéastes peuvent faire en sorte qu'il y en ait. Si vous voulez. Donc ça ne peut pas obéir à une quelconque volonté ou à quelqu'un vouloir dire, mais il y a des postures de création qui font que le réel peut arriver plus facilement, mais de façon quand même incontrôlée. Le réel, c'est le hasard, hein. Le réel ne peut advenir que par une intervention du hasard, c'est par le seul fait du hasard. Alors, cette histoire du réel et de la fiction, c'est évidemment le projet des Straub. Les Straub ont travaillé ça toute leur vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire advenir du réel? Comment est-ce qu'on peut donner au spectateur le sentiment que sur l'écran, devant lui, il y a du réel, sans que ce réel soit pris forcément dans une scénarisation. Ou alors, au contraire, chez Straub, souvent le réel arrivent contre la part quand même qu'ils acceptent de scénarisation ou de fiction. Parce que pour eux, si la réalité va dans le sens du texte ou du scénario, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, ils jouent toujours de cette double entrée, si vous voulez. D'un côté, il y a le texte, et de l'autre, il y a ce qu'ils espèrent être le réel, mais les Straub n'ont pas d'illusion. Ils savent très bien que le réel, ça ne se commande pas, et que c'est pas parce qu'on met un dispositif en place que le réel va arriver automatiquement, si vous voulez, à la surface de l'écran. Alors, pour Godard, pour Straub, parfois pour Romer, qui est très rossellinien, si vous voulez, pour eux, il y a un refus farouche de la complaisance du cinéma avec l'imaginaire et avec le récit, avec la narration. Pour eux, le cinéma doit travailler d'abord le réel dans ce qu'il a de plus rugueux. J'emprunte le mot à Simone Veil. Simone Veil dit: un critérium du réel, c'est que c'est dur et rugueux. On y trouve des joies, non de l'agrément. Ce qui est agréable est rêverie. C'est-à-dire, au cinéma, on le sait, ce qui est agréable, c'est les fictions, c'est le fait d'être pris dans un univers imaginaire, etc. Et quand il y a du réel, enfin, quand il surgit du réel dans un film, c'est pas forcément vendable. Si vous voulez, le cinéma fonctionne à la rêverie imaginaire et pas au réel. Le réel est toujours perçu comme quelque chose qui est une intrusion, qui casse quelque chose, si vous voulez, dans l'univers imaginaire. Alors, Godard a dit des choses très très claires sur cette question, à une époque où il citait beaucoup Saint Paul, qui disait: l'image viendra le jour de la résurrection. Et Godard ajoutait: le cinéma est en quelque sorte la résurrection du réel, mais cette résurrection, elle est très difficile à mettre en œuvre dans un film. Et il disait, alors là c'est essentiel, l'histoire du cinéma, elle est là, dans cette relation du cinéma au réel, pas dans les problèmes de style, qui bien sûr existent, mais secondairement. Bon, c'est quand même costaud. Godard qui dit finalement: les problèmes de style, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le rapport du cinéma, des films au réel, et toute sa vie, Godard a travaillé ça. C'est-à-dire sans rejeter la fiction ou l'imaginaire, mais l'imaginaire doit se tenir à sa place et ne doit pas empêcher que le réel advienne. Alors, je vais énumérer deux conditions possibles pour que du réel advienne. Première condition, il faut laisser du vide et du blanc. C'est-à-dire, il faut laisser des zones vidées du sens préconçu, du scénario, du vouloir dire, etc., du cinéaste. Simone Veil dit l'imagination est par essence combleuse de vide. C'est-à-dire, et justement, si on comble le vide, le réel n'a aucune chance. C'est-à-dire qu'il faut prendre le risque qu'il y ait du vide dans la fiction, par exemple, pour que du réel puisse advenir. Alors, et elle dit, l'attribution d'une fausse valeur à un objet ôte aussi de la réalité à la perception de cet objet, car elle noie la perception dans l'imagination. C'est-à-dire méfiance absolue pour l'imaginaire et l'imagination, si on veut, si la perception permette de voir réellement un objet. Donc ce vide, le premier qui a eu l'idée géniale de ça, c'est Rossellini. C'est-à-dire, en voyage en Italie, quand il commence le voyage en Italie, il n'a pas de scénario. Et quand son producteur l'enferme dans une pièce à l'hôtel et lui dit « tu ne sors pas tant que tu n'as pas écrit un scénario ». Et lui, il n'a pas envie d'écrire une histoire. Et il a assez avec ce qu'il a. Et il fait un scénario, il écrit que des lieux et des gens. Il dit « on ira à tel endroit au kilomètre 7, il y a des buffles, puis après on ira dans tel, on ira au musée de Naples ». Et là, on demandera au gardien de jouer dans le film, et il y aura telle statue et telle statue. Il fait une énumération de choses réelles, et rien de plus. Il n'y a pas un mot sur les personnages. Et mais le réel, pour lui, ça va jusqu'aux voitures. C'est-à-dire, il dit, là, je veux que ce soit une Bentley de telle période, etc. En tout cas, il n'y a rien d'imaginaire. Il n'y a pas un mot d'imaginaire. Et donc, quand il commence le film, il n'a que ça. Et il se retrouve en train d'essayer de faire un film sans le moindre outillage imaginaire à ce moment-là. Et alors, et après je reviendrai dans la deuxième catégorie aussi. Le voyage en Italie a tout inventé, enfin Rossini a tout inventé dans ça. Alors, il y a aussi dans le voyage en Italie la métaphore du surgissement du réel. Là, c'est le hasard. Parce que Rossini, évidemment, n'a jamais théorisé tout ça. Déjà, il fait ça par paresse, parce que ça l'emmerde d'écrire une histoire. Quand on l'oblige, il dit, ben, ça se passera là et là. C'est-à-dire, c'est pas du tout... Rossini n'a jamais eu un projet théorique de dire, je vais faire advenir le réel autrement que dans les autres films à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est en faisant qu'il invite ça. Et il tombe, alors, par hasard, parce qu'il n'y a pas de réel sans hasard. Hein. Le réel est soumis au hasard. Il tombe sur l'histoire des fouilles, c'est-à-dire qu'il connaissait le patron qui dirigeait le truc des fouilles. Il lui dit, écoute, demain on fait un truc, peut-être on va trouver un creux dans le sous-sol, c'est peut-être des gens qui ont été ensevelis par la cendre. Personne ne sait ce qu'il y a. Ils ont juste, en tapant, vu qu'il y avait un creux. Donc là, le vide, il est génial parce que c'est un vrai vide, c'est-à-dire le creux. C'est un vrai creux, il n'y a plus rien du squelette ni rien, c'est une forme vide. Et donc Rossellini vient avec sa caméra, il filme, et alors il filme le processus, c'est-à-dire pour que ce creux devienne du réel, il faut injecter du plâtre, parce que sinon il n'y a plus rien. Si on enlève la terre et qu'il y a le creux, il n'y a plus rien. Donc c'est le plâtre qui va jouer le rôle du réel en rendant visible quelque chose qui n'existe pas, puisque c'était purement un creux. Et donc là, il y a le surgissement de quelque chose. Alors, l'histoire du surgissement, chez Rossellini, c'est pareil dans Stromboli. Pour lui, les choses importantes, qui sont, disons, le réel ou le sacré, ça surgit de la surface. C'est les tons, c'est, si vous voulez, pour lui, il y a un lien entre surgissement du réel et surgissement de quelque chose qui est plat où on ne voit rien. Évidemment, Strobe va beaucoup se servir de ça, puisqu'après, Strobe fait des plans, par exemple, il sait qu'à tel endroit, il y a eu un massacre, qu'il y a eu beaucoup de morts, ouvriers, etc. Il va, il met sa caméra, il filme rien. Il filme le trottoir, ou il filme la rue d'aujourd'hui, où il sait, lui, que historiquement, il y a eu un massacre, par exemple. Et évidemment, quand on voit le film, on se dit, mais qu'est-ce qu'il filme et j'ai fait cette expérience personnellement. Une fois, j'étais très, très troublé. J'allais souvent à Sarajevo pour faire des ateliers avec des jeunes gens qui avaient été les jeunes gens de la guerre. C'est-à-dire, ils n'étaient pas allés à l'école, ils n'avaient rien appris. Et un jour, je leur ai dit, j'avais des petites caméras, je leur ai dit, écoutez, je vous donne 3 heures, vous allez dans Sarajevo et vous me ramenez des plans lumière. Vous me ramenez un plan d'une minute, caméra fixe, etc. Ils reviennent et je vois des trucs. Évidemment, ils n'avaient aucune idée de Rossellini ou de Strobe. Ils m'amènent des plans dans un endroit où il n'y avait rien à voir. Et je leur dis, mais pourquoi tu as filmé ça? Il dit, parce que là, mon copain s'est fait choper par une balle, etc. C'est-à-dire que c'était totalement trop bien. C'est-à-dire que le réel était caché sous ce qui était, sous la réalité qui était devenue Sarajevo. Le réel à eux, si vous voulez, traumatique. Alors, ça c'était le premier point, c'est-à-dire il faut laisser du vide et du blanc. S'il n'y a pas de blanc dans le sens, le réel ne peut pas arriver. Deuxième condition, et là elle est essentielle, il faut une rupture de continuité dans la représentation. Si dans une fiction la représentation est continue, le réel n'a aucune, non, aucune fissure pour sortir ou pour se révéler. Il faut qu'il y ait des ruptures de continuité, c'est-à-dire il faut des dispositifs où peut advenir du réel hasardeux, mais ce réel, c'est pas sûr qu'il va venir. Il est absolument non convocable par la volonté créatrice du cinéaste. Le cinéaste peut mettre en place le dispositif, mais rien ne dit que ça produira quelque chose, puisque le réel, par définition, il n'obéit à rien. Le réel, il surgit ou il surgit pas. Alors, cette idée de rupture de la représentation, là aussi, Rossellini invente ça dans Le Voyage en Italie. Ça rend fou de penser que ce type, dans le même film en 1953, invente tout, enfin à peu près, sur qu'est-ce que c'est que le réel et comment on peut faire arriver du réel dans un film. Alors, bon, dans Le Voyage en Italie, si vous voulez, comme il n'a pas de scénario, il commence par filmer des choses. Il filme. Et après, il a quand même Ingrid Bergman. Il a. Et du coup, après, il l'amène, et puis il fait des plans sur elle, mais pas pendant qu'il filme le réel. C'est-à-dire qu'il va faire plein de plans sur des choses. Par exemple, il met la caméra dans la voiture et il filme les rues de Naples, avec les aléas, c'est-à-dire il y a un corbillard qui arrête la voiture, etc. Elle n'est pas là. Il filme pas le réel, il filme la réalité, comme ça. Et après, il met la caméra dans une voiture et il la filme elle. Évidemment, c'est pas la même réalité quand il la filme elle. Et après, il invente une chose alors qui est essentielle, hein, qui est le faux raccord comme bon raccord. C'est-à-dire, il va, au lieu de faire ce qu'aurait fait n'importe quel cinéaste de fiction normale, c'est-à-dire de dire, il faut quand même qu'il y ait raccord entre ce qu'elle, sa tête, ce qu'elle regarde et ce qu'on voit des rues. Et il fait le contraire. Il monte tout. À contre-axe, à contre-raccord, et on voit très bien d'un plan à plan qu'elle ne peut pas regarder ce qu'on voit. C'est-à-dire rupture dans la représentation classique, c'est-à-dire où le bon raccord sur le regard, c'est il faut qu'on croit que ce que regarde l'acteur, on le voit dans le plan d'après. Lui, il casse ça, mais complètement. C'est-à-dire le film est invraisemblable sur ça, parce qu'il se dit, bon, si je fais pas ça, ce que le spectateur va voir, c'est de la réalité. Il va voir une rue de Naples. Si le spectateur éprouve qu'il y a une cassure entre elle, comme personnage de la fiction, et ce qu'elle regarde, là, il y a un peu de réel qui peut advenir. Il a déjà fait ça dans Stromboli. Hein, à la fin, c'est la même chose. Dans Stromboli, la rupture de représentation est invraisemblable. C'est-à-dire qu'elle monte au volcan, elle est toute crade, elle transpire, etc. Et le matin, elle se réveille, elle est impeccablement maquillée, et il y a une lumière géniale et tout. C'est-à-dire que le réel n'est le contraire du réalisme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle, à ce moment-là, elle comprend, c'est un insight, elle comprend tout ce qu'elle n'avait jamais compris sur elle-même, comme dans un film de Romain. Hein, et Rossellini ne se dit pas il faut que ce soit crédible. Parce que être crédible, c'est purement les pauvres règles de la fiction. Enfin, il faut montrer que c'est une sorte de quelque chose d'un peu un événement un peu miraculeux comme ça qui lui arrive. Bon, je vais montrer deux extraits de deux films qui sont à l'opposé dans le cinéma. Je vais montrer un extrait de Femme fatale de Palma, où on est. De Palma, moi, c'est pour moi le cinéaste le plus fort sur l'univers imaginaire. C'est-à-dire, De Palma, c'est compact, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on est content quand on rentre sur De Palma, parce qu'on sait qu'il n'y aura aucun réel qui va venir nous embêter. On sait qu'on est dans un univers entièrement et plaisant, avec des actrices, glamour, etc. C'est-à-dire, et pour moi, par rapport à ça, Obsession est un film génial. C'est le film qui a la plus grande concentration d'imaginaire, et que de l'imaginaire. on est comme ça, bon. Et finalement, quand on aime obsession, on se dit que on devrait aimer, c'est la même chose. Les petits romans, aujourd'hui on ne dit plus Harlequin, mais vous voyez, les petits romans qui fonctionnent qu'à l'imaginaire, que les intellectuels méprisent un peu, enfin, en disant, parce que bon, on dit c'est que de l'imaginaire, et obsession c'est la même chose. Enfin, sauf que c'est du grand cinéma, si vous voulez, mais c'est tout, mais pas sûr. Il n'y a aucune valeur de jugement sur le fait qu'on est, voilà, qu'on est que dans l'imaginaire et que du coup Godard mépriserait ça. Et Straub, n'en parlons pas. Pour Godard, voir Obsession, ça serait une torture. Et Straub, il casserait l'écran, si vous voulez. Et alors qu'en fait, voilà. Alors, je vais vous montrer un extrait de Femme fatale, où là, aucun réel ne devrait pouvoir advenir. Tout est fait contre le... C'est un cinéma d'une esthétique hollywoodienne. Tout est sous contrôle. Même le corps de l'actrice est maquillé, costumé, éclairé. Et dans cette séquence, il y a, le même corps peut être celui de deux personnages distincts. C'est-à-dire que la singularité n'existe plus. C'est, voilà, le corps est une pure représentation, glamour de quelque chose. Alors, je vous montre l'extrait, je vous dis en deux mots ce qui se passe avant. C'est-à-dire, Laura, là, que vous allez voir, elle a réussi à voler au Festival de Cannes un bijou très très cher. Elle a piqué le bijou à ses complices, et puis elle est allée à Paris. Et puis elle se fait retrouver par ceux qui étaient ses complices. Évidemment, elle est en danger. Et du coup, comme elle est poursuivie, elle rentre dans une église. Et là, bon, là c'est génial, il y a un vieux couple qui lui parle comme si elle était leur fille. Et ils lui disent Ah, tu es revenue, viens à la maison. Ils l'amènent à leur maison. Comme elle est en fuite, elle accepte. Cette place qui n'est pas la sienne, d'être comme ça. Et là, on est dans le quintessence de la fiction. C'est-à-dire, on est dans comment est-ce qu'on se construit dans l'imaginaire par rapport aux autres. Et vous allez voir, elle voit les photos de l'autre fille depuis qu'elle est petite, etc. Elle voit les robes de l'autre fille. C'est-à-dire, là, c'est totalement lacanien. C'est-à-dire, à ce moment-là, elle commence à n'exister que par l'autre. Et par les représentations qu'elle a de l'autre, là. Donc on se dit, tout roule bien, et puis il va y avoir la baignoire, patatras, tout se casse. Alors soyez très très attentifs, parce que personne ne voit ça, très peu de gens voient ça. C'est-à-dire que dans la baignoire, on est à Hollywood, hein, il va y avoir un cafard qui n'a pas été amené par personne. Hein. Un hasard fou a fait qu'un cafard venu du réel se retrouve dans le plan, dans la baignoire. Et nous on le voit à peine, mais elle, oui, elle le cache. C'est-à-dire, là c'est un truc de fou, furieux. Donc il y a ça, c'est le côté, voilà, c'est le cafard de la réalité que personne n'attendait, que personne n'a voulu, mais quand même De Palma est très fort parce qu'il l'a gardé. Je suppose qu'il y a d'autres prises, c'est-à-dire que ce cafard, quand même, il s'est dit, bon, c'est dans son système de clôture imaginaire totale, avoir ce petit truc de réel, c'était quand même bien. Et puis, il y a un truc, alors là, plus mystérieux pour moi, c'est, vous allez voir, les doigts de pied de l'actrice. C'est-à-dire, c'est une actrice super belle, glamour, etc. Et puis, vous allez voir ses ongles, on n'y croit pas, quoi. On se dit, comment, à Hollywood, on peut laisser une actrice filmer un pied pareil? C'est-à-dire que les ongles sont mal taillés, ils sont trop longs. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de continuité absolument totale entre le pied, entre les ongles, enfin, les doigts de pied de cette fille et tout le reste, qui est le contraire absolu de ça. Donc c'est très bizarre que dans la même baignoire, au même moment, il y ait deux trucs de réel qui surgissent. Et alors l'histoire des doigts de pied, bon, l'histoire du cafard, je suis sûr que c'est le pur hasard, c'est l'aléa. Mais même si je me demande toujours pourquoi il y a eu un cafard sur le plateau, enfin, pareil. Mais je me suis dit, il y a des cafards dans les restaurants, donc pourquoi pas sur un plateau de cinéma. Mais le doigt de pied, non. Il n'a pas pu ne pas voir que ça n'allait pas, quoi, qu'il y avait quelque chose. Alors évidemment, on pense à Bataille, hein, c'est-à-dire que le doigt de pied, c'est l'obscène, enfin. Et là, il est vraiment obscène par rapport, il est obscène par rapport à la scène imaginaire, si vous voulez, du film. Allez.
communément appelé rêve prémonitoire. Et une fois qu'on a vu l'avenir, dans la paume de la main, dans un rêve, peut-on le changer?
Il semblerait.
Alors, que doit-on penser de ces phénomènes? Comment peut-on les expliquer? Peut-on réellement recevoir des messages de ce que je pourrais appeler l'au-delà? Peut-on être inconsciemment doté d'un pouvoir de perception qui nous permettrait, comme le personnage du film de ce soir,
évidemment. C'est la version très soft de Lacan, qui dit que le jeu se construit à partir d'une identification imaginaire à l'autre. Il y a tout. Cafard, c'est très important pour Straub et pour Godard, puisque bon, il y a un film de Godard où à un moment il y a un personnage qui est un cinéphile fou et il se précipite chez le marchand de, chez le loueur de cassettes et il dit: vous m'avez donné la mauvaise cassette de Straub, il n'y a pas le lézard à la minute 15. Parce qu'en fait Straub fait des fois des films où il se sert de prises différentes pour faire deux versions du film, et évidemment on les reconnaît. Parce que dans un des plans, il y a un lézard. Et Godard, il ne dit pas ça pour se moquer. Il comprend ça, Godard, que finalement, c'est très important pour Straub de ne pas sacrifier un plan où il y a un lézard qui est arrivé comme le cafard un peu ici. Bon, je passe à Straub, du coup, direct. Alors, sur ça, il y aurait d'autres, évidemment, chez Kiarostami. Kiarostami est très, très fort pour faire advenir du réel comme ça. Il y a un plan sublime dans Le vent nous emportera où il filme la voiture qui part. Et puis à ce moment-là, la caméra ne s'arrête pas et il y a une poule qui traverse tout le cadre. Elle marche sur le bas du cadre. Évidemment, c'est impossible à organiser ça. C'est-à-dire, et miraculeusement, le chef-op n'a pas coupé. Et du coup, il nous laisse après bien le temps de voir la poule du réel, comme ça, qui vient d'arriver. Alors. Je passe très vite à Straub. C'est un extrait de Sicilia. Il y a tout là. Il y a tout sur le réel. C'est-à-dire, on comprend absolument comment ça marche, les rapports de la fiction et du réel. Alors, Sicilia, c'est un film très fictionnel, puisqu'il y a le roman à l'origine, etc. Et Un jour, Straub a dit, j'étais là, il a dit, c'est un film de vieux, c'est-à-dire, je me suis laissé aller à raconter. C'est un film de vieux, au sens où quand j'étais jeune et fort, j'aurais jamais raconté autant que là, c'est-à-dire, j'ai été faible, j'ai été lâche, voilà. Et on va voir le moment de lâcheté, c'est le moment dans le train, où il fait des choses que Straub n'a jamais fait, c'est-à-dire, il fait comme dans le vrai cinéma narratif, il fait des champs contre champs, et il fait même un gros plan. Sur un des deux passagers. Donc là, effectivement, après ça, il faut qu'il se rattrape. Et vous allez voir, il se rattrape costaud. C'est-à-dire, il s'est laissé aller un peu à faire du cinéma de fiction. Et là, vous allez voir, il y va, sur le réel, il va y aller très, très fort. Je vous le dis comme ça. Après, peut-être on arrêtera après. Je crois que là, le temps file. Mais alors, je le montre et on en parle.
Non si sa mai.
Vero! Non si sa mai con questi brutti tipi che girano. Sono un impiegato del catasto.
Oh, davvero? E cosa fate? Andate in licenza a casa?
Sì, vado in permesso. Vado a Sciacca Paese.
A Sciacca? E venite da lontano?
Da Bologna. Sono lì, impiegato, e mia moglie è bolognese. I miei figli pure.
E andate a Sciacca di qua?
Sì, di qua. Siracusa, Spaccaforno, Modica, Genova, Donna Fugata.
Vittoria, Falconara, Alicata.
Ah ah! Girgento.
Agrigento, prego. Ma se proseguivate per Caltanissetta, non vi conveniva?
Già, mi conveniva e mi risparmiava 8 lire. Però di qua è sempre lungomare.
Mi piace il mare.
Non so, credo che mi piaccia ad ogni modo la linea, mi piace. Mi fermate a Siracusa?
Mi fermo lì.
Risiedete lì?
No, non risiedo lì.
Ma non avete nessuno a Siracusa?
No.
Ci andate per affari allora?
No, no. Avete una bella voce di baritono, voi.
Oh.
Perché? Non lo sapevate?
Oh, quanto a saperlo, lo so.
Naturalmente. Non poteva essere vissuto sinora senza saperlo. Peccato che vi siate impiegato al catasto invece di cantare.
Già, mi sarebbe piaciuto. Nel Falstaff, nel Rigoletto, su tutti i palcoscenici d'Europa.
O anche per le strade. Che importa? Sempre meglio di fare l'impiegato.
Oh, sì, forse. Eccoci a Siracusa. Credo di trovare subito pronta la coincidenza. Ma che farete a Siracusa?
Signora Concezione!
Oh! È Silvestro!
Come hai fatto a riconoscermi?
Me lo domando anch'io. Vieni, ho la rinca sul fuoco. Sentirai com'è buona.
Ne mangiavamo quando ero ragazzo.
Altro che aringhe d'inverno e peperoni d'estate. Era sempre il nostro modo di mangiare, non ti ricordi?
E le fave coi cardi.
Sì, le fave coi cardi. Ne avresti voluto sempre un secondo piatto e così pure le lenticchie. Cucinate con la cipolla e i pomodori secchi.
Donc si je reprends les morceaux de cette scène, on démarre chez John Ford, hein, c'est-à-dire il y a deux personnages qui parlent de qui ils sont, où ils habitent, pourquoi ils sont là, même s'il y en a un qui est très réticent à parler, mais en gros on est dans une scène de fiction absolument standard, c'est-à-dire le langage sert à situer l'un par rapport à l'autre. Strobe fait vraiment, il fait trois plans différents sur celui qui est à gauche, ce qu'il n'a jamais fait. Strobe, enfin jamais Strobe fait ça. Notamment, enfin, il y a un très gros plan, tout ça, et la conversation continue, on la suit, on est dans de la fiction normale, avec le côté en plus comique, enfin le côté exagéré des postures, de l'énonciation, disons, de ces deux personnages. Et puis d'un coup, on arrive, le train est censé arriver à Syracuse, et puis là, il y a plus rien. C'est-à-dire que on s'attend à ce que le train s'arrête, on est frustré, il y a un trou. Et puis commence un travelling très très long, vu de la fenêtre du train. Et ce travelling, au début, il est naturalisé par le son. C'est-à-dire qu'on entend le train qui roule. Et évidemment, on continue à être dans l'imaginaire, peut-être, du personnage qui regarde par la fenêtre. Et là, ils font un truc de fou, c'est-à-dire qu'ils coupent le son. Qui naturalise, disons, le plan, et on a comme ça un travelling très très long sans rien, c'est-à-dire on n'a plus rien à quoi se... dans l'imaginaire, on n'a plus rien à quoi se raccrocher, et c'est très long. On se dit, bon, ça va, il va arriver, enfin, parce que le personnage On pense qu'on va le retrouver, évidemment, comme dans une fiction, tout de suite. Mais le trou va continuer encore longtemps, puisqu'on passe de ce plan silencieux à ce plan qui est, où il filme quatre fois la même chose, sur le paysage du village, qui est censé être le village de la mer. Alors là, bon, c'est directement Lacan, hein, puisque Lacan dit le réel est ce qui revient à la même place. Ça, c'est peut-être la définition la plus importante, hein, de Lacan. Le réel, c'est ce qui revient toujours à la même place. Et Lacan dit, à cette place, le sujet, en tant qu'il cogite, ne le rencontre pas. C'est-à-dire la place où le réel arrive, le sujet pensant ne peut pas le rencontrer. Pour le rencontrer, il faut d'autres conditions que la pensée. Donc là, il nous vide un peu de tout ça. Et donc là, en fait, en plus, c'est très étrange parce que c'est deux fois exactement le même mouvement. Et quand on arrive au bord avant le ciseau, si on fait très attention, c'est au millimètre près. C'est-à-dire Lukchansky a fait, et donc ils l'ont fait le matin et le soir, ce plan. Et on voit que la lumière change beaucoup. Donc il fait le plan le matin, il a des repères au millimètre, il fait le ciseau. Le ciseau n'est pas égal, hein, puisque ça part de là, ça vient là et ça s'arrête avant. Puis le plan repart le soir et c'est exactement le même parcours. C'est-à-dire le monde revient exactement à la même place et cette place n'est pas subjective. On ne sait pas qui voit ça. Est-ce que c'est nous, c'est-à-dire que si c'était subjectif, s'il avait voulu être subjectif, il aurait fait revenir le personnage, comme il a fait avant dans le train. C'est-à-dire qu'il y aurait le personnage qui est le personnage du film. Hein. C'est le personnage principal du film, on le connaît, on l'a déjà vu, on l'a entendu parler, etc. Donc il l'élimine et ce plan est très juste par rapport au symbolique, puisque dans le plan, il y a du symbolique. Il y a l'église, il y a le cimetière, c'est-à-dire il y a la communauté. C'est-à-dire c'est un plan que, si on était un peu plus près, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire, pour que le plan soit vidé du symbolique, la deuxième fois, le cimetière, on ne le voit plus, ou l'église, on ne le voit plus. Si vous voulez. C'est-à-dire, il faut qu'en revenant exactement à la même distance, deux fois sur tout ça, ça vide de ce qui nous restait à nous de remplissage symbolique de ce qu'on est en train de voir, symbolique ou imaginaire, hein. Il vide tout ça. Ça ne veut pas dire que le réel est là, hein. C'est pas parce qu'on vide que le réel surgit. Le réel, ça serait trop facile, si vous voulez, de penser la question comme ça. Et après arrive, bon, on se dit, bon, on va quoi, enfin, on se dit qu'est-ce que c'est, que devient le film et que devient notre imaginaire du film lié au personnage. Et puis le personnage revient, frappe à la porte de la maison de son enfance, enfin de sa mère, et là donc on se dit, bon, c'est bon, on est revenu dans la fiction. Et on est revenu dans la fiction puisqu'ils vont évoquer le passé quand il était petit, etc. Et là il y a ce plan très très beau du hareng, enfin du poisson sur le griffe, parce que bon, il est très maniéré, parce que normalement on devrait voir la mer mais il faut que ce soit un plan comme ça purement objectif, si on peut dire, c'est-à-dire que du coup, il fait rentrer la main de la mère comme ça sur le côté, c'est absurde, hein, par rapport au fait qu'elle vient retourner le poisson. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un palier de plus avant d'arriver au dialogue qui va être très long et qui lui va évoquer le père, le passé, etc. Là, on va être dans l'imaginaire et le symbolique après. Donc, à un moment, il se dit comment j'expie la fiction dans le wagon de train, comment j'expie la fiction et le fait que j'ai fait du John Ford. Et du coup, il cherche beaucoup de façons de décaper le film de l'imaginaire dans lequel il nous avait intégré, dans lequel on était bien, parce qu'on est bien dans ce film. Enfin, c'est un des films de Straub où on est le moins brutalisé. Enfin, moi, c'est un film accueillant. C'est pas toujours le cas des films de Straub, mais là, oui. Mais en même temps, voilà, c'est trop pour lui, c'est trop pour eux de continuer sur le registre comme ça de la fiction imaginaire. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment, voilà, il faut vider, il faut du sens blanc, il faut même vider le son, il faut creuser pour que peut-être du réel puisse un tout petit peu, disons, advenir. Voilà, donc J'avais l'autre extrême, mais j'arrive pas, enfin, on n'a pas réussi à le montrer parce que je voulais poser la question de le réel dans le documentaire, qui est une question. Très, enfin, justement, c'est une chose dont j'avais beaucoup parlé avec Van der Kuyken, qui disait toujours c'est trop difficile de toucher le réel. C'est-à-dire, Van der Kuyken, Dieu sait s'il a filmé la réalité, mais il disait toucher le réel en documentaire. C'est plus difficile qu'en fiction, parce qu'en fiction, on a la fiction qui permet de faire des trous et de faire surgir du réel. Documentaire, on n'a pas de trous, théoriquement, on a... Voilà. Alors, il y a un extrait qui est absolument sublime dans Shoah sur ça, c'est-à-dire, il rassemble devant l'église les gens du village et il les pousse au crime, hein, antisémite, il leur dit, ouais, alors les juifs, ils avaient beaucoup d'argent, etc. Il les pousse vraiment au crime. Pour faire ressortir quelque chose de l'antisémitisme des Polonais, enfin de cette région-là. Et puis c'est purement idéologique, c'est-à-dire on se dit bon, il y va fort, il veut leur faire dire des choses, on se dit bon, il va y arriver, parce que notamment, dans ils avaient des valises, les Juifs, et il dit qu'est-ce qu'il y avait dans ces valises? Ils disent de l'or. Et lui, comment vous savez qu'il y avait de l'or dans les valises, etc. Donc il fait le pouce au crime, et c'est très désagréable ce moment-là où il essaye de fait ressortir des choses sales, enfin, de ça. Et à ce moment-là, il y a un miracle cinématographique absolument littéral, c'est que les curés sortent. La messe est, parce que pendant ce temps, il y a la messe. Les curés sortent, donc il y en a un ou deux comme ça, et puis à un moment, arrivent dans le champ des petites filles en blanc qui jettent des pétales de rose pour que le chef des curés sorte, etc. Et c'est sublime. Et évidemment, personne ne pouvait savoir que cette chose-là allait arriver alors qu'on est dans une séquence totalement idéologique et totalement fondée sur le vouloir dire, même pire que le vouloir dire, le vouloir faire dire.
Est-ce qu'on entendait des cris la nuit?
Ils avaient bien mûri, ils
avaient faim.
Gémissaient, ils avaient faim.
Tout était enfermé, ils avaient très faim.
Est-ce qu'ils avaient à manger?
Tutaj dostarczano im coś do jedzenia, czy nie?
Nawet się nie widział.
Nie wolno było się obejrzeć.
Même on peut pas regarder de ce côté. Même on peut pas parler en juif.
Nawet tu wejdzie nie było wolno tutaj na to.
Jak człowiek szedł szosą, to jak spojrzał tutaj, to już dostał.
Même si on passait par la route ici, on ne peut pas jeter un regard. De ce côté-là.
Mais est-ce qu'ils regardaient quand même?
Ale czy jednak widzieli państwo coś?
Podjeżdżali, oni tutaj zabierali z kościoła właśnie.
Oui, il y avait des camions qui venaient ici.
Tylko nie trzeba było przyjść.
Et là, la cure, il y avait un dépôt, il y avait plein de valises.
Ah, c'était les valises des Juifs.
Tu avais vu jusqu'à valises qui
donnent?
Oui.
Jusqu'à
zlato. Il y avait de l'or.
Il y avait de l'or.
Dans ces valises.
Mais comment est-ce qu'elle sait, madame, qu'il y avait de l'or? Demande-lui.
À ce moment-là, il faut bien donner un peu de l'or.
Ah, c'est la procession. Alors on va.
C'est la table ronde.
Oui, ceci dit.
C'est moi qui fais le. C'est moi qui fais
non,
le.
Non, mais, rôle. Ben là, mais effectivement, il est 4 mois 10. Oui. Donc on peut effectivement s'arrêter. Ben, tout à l'heure, merci. Merci.